Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Philippe Riffman, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gourion.
Merci, Maître Riffman, puisque vous êtes avocat aussi, de nous recevoir dans votre cabinet parisien, rue de Rivoli. Cet entretien, nous vous l'avons proposé parce que vous sortez tout récemment un gros ouvrage dont on reparlera, qui s'appelle « Droit et pratique de l'action humanitaire », qui est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, collectif parce que je crois que des dizaines, peut-être 60 ou 70 personnes y ont participé. Ouvrage que vous avez piloté et dirigé avec Sandra Surek et Marina Eudes. Eudes. Voilà. Alors, c'est l'occasion de rencontrer un homme qui est connu dans le monde de l'humanitaire, pour ses travaux juridiques, pour son implication dans un certain nombre d'ONG, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Alors, je ne vous interrogerai pas évidemment sur le terrain professionnel, puisque la légendaire discrétion des avocats par rapport à leurs clients fait qu'ils ne doivent pas répondre à ce type de questions, sauf si volontairement, et parce que ça aide votre projet, vous souhaitez en parler. Mais par contre, on peut dire que vous avez un parcours qui a fréquenté très souvent des organisations non gouvernementales sur le terrain de la pratique et sur le terrain de la théorie. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, puisque c'est un portrait que nous faisons dans cette émission, Human, c'est de savoir de quelle manière et pourquoi et comment vous avez été attiré par ce monde de l'humanitaire.
C'est effectivement, comme on dit quand on veut éluder, c'est un vaste sujet ou une vaste question. Juste une petite rectificatif d'abord, effectivement, quant au nombre d'auteurs, effectivement, c'est un ouvrage collectif, à la fois dans sa co-direction avec Sandra Surek et Marina Eudes, et comme vous le disiez, avec le nombre d'auteurs, il y en a très exactement 85.
Ah oui.
Donc effectivement, c'est assez volumineux en termes de travail, mais aussi effectivement en termes d'objets en quelque sorte, mais avec des auteurs, on y reviendra tout à l'heure, de diverses origines, c'est-à-dire aussi bien ce qu'on appelle des académiques, donc des chercheurs, des universitaires dont c'est le métier, mais aussi des chercheurs indépendants, mais aussi des praticiens. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi.
Voilà, nous faisons-le très librement, très simplement, pour
donc,
le grand public.
Comment c'est à la fois c'est une conjonction d'engagement personnel.
Oui.
Très jeune, je le suis un peu moins maintenant, mais donc sur les thématiques de solidarité.
Et quelle forme quand vous êtes jeune?
Sur les thématiques d'engagement, déjà auprès d'associations, quand j'étais étudiant, et puis ensuite, dans les premières années de mon activité, mais des engagements sur un plan donc de questions de solidarité, notamment avec un axe sur l'international, et ça a rencontré un autre, ça s'est croisé avec... une autre activité, puisque j'ai une autre casquette, en quelque sorte, juriste, mais je tiens aussi à la précision, je suis aussi ce qu'on appelle un politiste, donc quelqu'un qui travaille dans le domaine de la science politique, et plus spécifiquement dans le domaine des relations internationales. Et lorsque j'étais étudiant, donc j'ai poursuivi parallèlement ces deux types de cursus, et j'ai continué aussi le cursus sur le plan relations internationales. Et il se trouve que c'était une époque où on commençait à évoquer le fait et à se rendre compte du fait que dans le domaine des relations internationales, il n'y avait pas que les États. Pendant très longtemps, la théorie des relations internationales, c'était une théorie autour des États. Et puis, progressivement, elle s'était élargie à ce qu'on appelle les organisations internationales, mais qui sont composées d'États. Les Nations Unies sont composées d'États, les organisations internationales, le Conseil de l'Europe est composé d'États. Et donc, on commençait à se rendre compte qu'il y avait d'autres acteurs. Et assez paradoxalement, à l'époque, on parlait comme autres acteurs des entreprises multinationales. On a beaucoup, phosphoré dans les années 80 sur la charnière des années 70-80 sur le fait que les entreprises multinationales allaient en quelque sorte amener le pion aux États ou allaient être de grands acteurs de la vie internationale.
Ce qui est un peu le cas, les GAFA, par exemple.
C'est le cas, mais beaucoup moins que ce que on subodorait à l'époque ou que les théories le disaient, puisque finalement, c'est vrai que il y a une certaine influence, mais cette influence a été finalement moindre, en tout cas que le prédisaient les théoriciens de l'époque, et pas généralement dans les domaines qu'ils avaient prédits. Et moi, je me suis intéressé à une catégorie d'acteurs dont on parlait encore peu et qui étaient effectivement des acteurs privés qu'on commençait d'appeler les organisations non gouvernementales et qui commençaient à monter en puissance et qui étaient en quelque sorte sur un continent un peu aveugle encore. Et je me suis donc spécialisé là-dessus et ça a rencontré donc des engagements et je me suis spécialisé sur l'action des acteurs privés, notamment à l'international. Et donc à l'époque, c'était aussi beaucoup sur les problématiques d'aide ou déjà de défense des droits, donc, sur le plan international. Et quand on est dans une problématique de l'aide, il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'aide au développement, mais on se rendait assez vite compte que cette aide au développement dont on pensait que elle allait se substituer à toute forme d'autres actions, notamment d'actions qu'on appelait à l'époque caritatives, donc en matière de conflits ou de catastrophes, on se rendait compte que ça n'était pas exactement le cas et que il y avait une place importante au niveau de l'aide humanitaire. Et puis aussi qu'il y avait des connexions qui existent toujours entre ce qu'on appelle, pour simplifier, vos auditeurs connaissent ça parce que vous en parlez dans votre émission, l'urgence, la réhabilitation-reconstruction et le développement.
– J'imagine qu'à l'époque, donc on est dans les années 70, vous rencontrez inévitablement en France, à Paris, les grandes ONG des médecins français, des French Doctors, en particulier Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, vous devez les croiser.
– C'est l'époque où elle commence à monter en puissance, où elle commence effectivement à se développer et effectivement à constituer aussi. Et c'est aussi des engagements citoyens, c'est-à-dire ce ne sont pas que des en quelque sorte des techniciens ou des médecins, ils ont une conception effectivement société civile, avec donc des engagements forts d'un certain nombre de citoyens, soit directement, soit autour d'eux, soit par le biais du don.
Comment est-ce que le juriste de l'époque, puisque vous sortez d'études à la fois de droit et de sciences politiques, vous l'avez dit, comment est-ce que le juriste de l'époque se confronte intellectuellement à ce qui apparaît comme de nouveaux théoriciens de l'action internationale et humanitaire ?
Je dirais plutôt des praticiens que des théoriciens, d'ailleurs, effectivement, il y a une pensée, il commence à avoir une pensée de sommité. Il faut bien voir qu'à l'époque, l'action humanitaire, on était encore en période de guerre froide. Donc ce que ces organisations mettent en avant, c'est la dimension du témoignage et la dimension du fait que la souveraineté des États n'est pas absolue. Et que s'il y a sur leur territoire des populations en souffrance, des populations vulnérables, des conflits, ces populations ont un droit à l'aide, en dépit de la souveraineté des États, ce qui était, évidemment, heurtait directement la souveraineté des pays du bloc soviétique, mais aussi en partie des pays occidentaux, qui aussi avaient, même si la théorie de la souveraineté était moins clôturée, l'État était maître chez lui. Et donc ça, c'était les deux premiers éléments. Le troisième, c'est que on constate qu'on avait aussi, jusque-là, comme acteur principal, le plus vieil acteur, qui lui-même est un acteur non gouvernemental, même si ce n'est pas une ONG, qui était le Comité international de la Croix-Rouge. C'était l'acteur majeur avec les Croix-Rouges nationales et ce qu'on appelle le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et donc, c'était quasiment le seul acteur. Donc, il y a aussi une contestation par ces organisations, non pas de l'action, obligatoirement sur le terrain du CICR particulièrement.
Contestation, mais... je vous coupe, pardon, contestation par ces nouvelles ONG qui apparaissent, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, de la tradition de la Croix-Rouge internationale.
Oui, enfin, c'est-à-dire du fait que ce qu'on appelle la Croix-Rouge internationale, qui en tant que telle, si vous voulez, c'est une appellation qu'on emploie, mais qui n'a pas de réalité ni juridique ni concrète, puisque le Comité sur la Croix-Rouge, le CICR, est juridiquement parlant une association de droit suisse. Donc, mais qui se fait reconnaître un certain nombre de prérogatives par les États au terme de traités de convention internationale, mais le CICR était, d'une part, dans une tradition à l'époque qui mettait très en avant le droit international humanitaire et très en avant l'accord des États pour pouvoir mener son action. Et sur un plan d'aide concrète et d'aide logistique, il le reconnaît lui-même aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été des réformes profondes qui ont été faites au CICR à partir des années 70 et 80. Le CICR était sur le terrain, c'était assez peu concret en matière d'aide, ce qu'il faisait. Il faisait évidemment de l'apport alimentaire, du soin, mais c'était assez limité en termes opérationnels. Et donc ces nouvelles ONG françaises, mais aussi d'autres créées ailleurs, et puis aussi des ONG anglo-saxonnes plus anciennes, qui avait été créé soit après la Première Guerre mondiale, soit durant la Seconde Guerre mondiale, soit nettement après, comme Save the Children, comme Oxfam, comme CARE, et se repositionnent également sur le terrain humanitaire qu'elles avaient abandonné. Et donc tout ça turbule en quelque sorte, et de cette manière-là, le monde, le milieu humanitaire se met à évoluer, à changer très très rapidement, avec la montée en puissance donc d'acteurs privés financés par les dons des citoyens et puis progressivement aussi financés par des financements publics.
Quel est à votre avis comment dire le ou les facteurs qui ont généré cette éclosion?
Je crois qu'il y a toute une série de facteurs. D'une part, le fait qu'un certain nombre de citoyens, qu'ils soient médecins, juristes, sociologues, chefs d'entreprise, conducteurs de métro, cheminots, dans différentes activités, femmes et hommes aussi. Très vite, les femmes se sont considérablement engagées. Par rapport d'ailleurs au visage de l'époque, elles se sont beaucoup plus engagées que dans d'autres activités. Et on a eu assez vite, dans ces ONG, notamment en France, au niveau de la direction, au niveau de la gouvernance des ONG, des femmes occupant des postes majeurs, y compris des postes de direction, des postes de président. Ben, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait plus rapidement qu'ailleurs. Et puis, les facteurs, ils sont multiples. Ben, il y a aussi le fait que on n'est pas encore dans ce qu'on appelle la mondialisation, mais on commence à... On n'en est pas très loin. Les distances sont constamment raccourcies par l'avion. Donc, on va facilement loin. Et puis, un nombre relativement conséquent de gens disent ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe au Bangladesh, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique latine, me concerne aussi. Ça ne concerne pas, je ne me remets pas à l'État pour s'en occuper, je suis concerné. Et c'est la même chose en matière de Amnesty International, née dans ces années-là aussi. Je suis concerné, je m'engage aussi pour les droits humains. Je suis concerné par ce qui se passe dans tel ou tel pays, même si je n'y suis jamais allé. Même si je ne connais pas, donc il y a ce facteur-là, le facteur télévision, le facteur déjà de la propagation de l'information, et puis aussi des facteurs de référence historique par rapport à la Seconde Guerre mondiale, qui est encore assez présente dans l'univers mental, ou dont les ceux qui s'engagent sont ils étaient soit enfants durant la Seconde Guerre mondiale, soit ils sont nés quelques années après, et dont les parents leur ont parlé. Et donc par rapport au massacre de masse de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au massacre de masse des totalitarismes, de nazis, fascistes et communistes soviétiques, il y a aussi l'idée du plus jamais ça. Donc il faut éviter que ça se reproduise. Pour ça, il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et apporter de l'aide si on peut le faire, ou défendre, ou aider à la défense de droits.
Voilà, eh bien, écoutez, nous voilà bien partis dans cette grande valse des regards que les hommes du XXe siècle à cette époque et du XXIe aujourd'hui portent sur le monde, et en particulier le monde de l'humanitaire. Alors, j'ai prononcé le mot valse parce que quand je vous ai demandé il y a peu de temps quelle musique vous souhaitiez pour illustrer votre propos, vous nous avez proposé la valse de Shostakovich. On l'écoute. Thank you. nous sommes avec Philippe Riffman dans Human. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société ? Human, une initiative humanitaire et écologique qui associe de la radio et de la vidéo. Alors Philippe Riffman, voilà, nous sommes partis de votre formation et des raisons pour lesquelles vous aviez été vers l'humanitaire. Nous avons commencé à parler des historiques de l'humanitaire et on parlait à l'instant de Médecins du Monde, de Médecins Sans Frontières, mais évidemment l'humanitaire n'est pas né ni avec eux, ni avec la Croix-Rouge internationale. L'humanitaire a une tradition historique. Je sais que vous avez écrit un ouvrage sur l'histoire de l'humanitaire. Ça vient d'où, cet humanitaire ? Ça vient du droit de la guerre ?
Ça vient en partie, effectivement, de la guerre. C'est-à-dire l'idée que les humanitaires ils peuvent l'être à titre de conviction personnelle, mais ils ne s'inscrivent pas, par exemple, dans une démarche pacifiste. Ce n'est pas un mouvement pacifiste. C'est l'idée, en fait, d'atténuer les rigueurs de la guerre et des rigueurs des conflits et de pouvoir porter assistance aux victimes dans les conflits. Alors, au départ, c'était les soldats blessés, prisonniers. Ensuite, ça s'est étendu aux civils. Bon, si on en fait la généalogie intellectuelle, qui n'est pas uniquement chrétienne, mais dans laquelle, effectivement, le christianisme joue un rôle, il y a aussi une généalogie avec le judaïsme, une généalogie avec l'islam aussi, mais aussi avec des religions comme le bouddhisme.
Peut-on s'arrêter, parce que c'est une entrée originale sur ces quatre entrées, c'est-à-dire le judaïsme, j'allais dire par ordre chronologique, d'entrée dans le monde, le judaïsme, le christianisme, l'islam et, en parallèle, les religions asiatiques. Qu'est-ce qu'on trouve
On trouve en général l'idée que celui qui est finalement étranger, celui qui est prisonnier, qui n'a... celui qui... les femmes, les enfants, éventuellement certaines catégories de sociales ou de population doivent être protégées durant les conflits. Il y a, dans la généalogie chrétienne, par exemple, de grandes références, on ne peut pas y citer toutes, mais il y a saint Augustin, mais saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa Somme théologique, va traiter de la guerre. Et vous savez dans quelle partie de sa Somme il la traite ? Il la traite dans la partie sur la charité. Donc il fait un lien entre la charité et la guerre. Et nous sommes aussi sur un plan, nous sommes entre juristes aussi, vous avez une partie de vos auditeurs qui sont des juristes, et les autres, même ceux qui ne le sont pas, connaissent pour certains cela. Le droit international naît en fait avec la réglementation des conflits, ça s'appelle « De la guerre et de la paix ». C'est un ouvrage du XVIIe siècle, là c'est un protestant néerlandais qui s'appelle Hugo de Grotte, qu'on appelle Grotius, qui écrit le premier traité de droit international. Et ce premier traité, c'est sur, effectivement, la guerre et la paix, et donc c'est déjà sur une réglementation des conflits. D'ailleurs, l'idée qu'on ne peut pas faire tout, qu'il y a des règles qu'il faut respecter, tout en préservant ce qu'on appelle dans le jargon, aussi encore aujourd'hui, les nécessités militaires. Ça c'est une généalogie importante. En termes de généalogie religieuse, dans le judaïsme, il y a effectivement cette idée que l'étranger doit être préservé, doit être accueilli, que même si les textes juifs, notamment le Talmud, pour des raisons qui sont liées à la perte de souveraineté, évidemment politique, et les communautés juives sont en diaspora, elles sont généralement victimes des conflits et pas actrices, encore que c'est un peu plus complexe que ça, notamment jusqu'au 7e, 8e siècle, avec des troupes de mercenaires juifs dans différentes régions du Proche-Orient, mais qu'on ne massacre pas les prisonniers, une fois que la ville s'est rendue. Du côté de l'islam, notamment dans l'islam en Espagne, il y a aussi des traités de cette nature, sur le fait que on doit respecter un certain nombre de règles. Alors, la question est toujours de savoir, par exemple pour l'islam, est-ce que ça concerne que l'Oumma, c'est-à-dire les musulmans, ou de façon plus large, pour les chrétiens aussi, les chrétiens. Au XVIe siècle en Espagne, deux grands universitaires, mais aussi théologiens d'origine, développent pour la première fois la thèse suivant laquelle, en matière de conflit, tout le monde est concerné. Alors qu'on est à l'époque, donc l'Espagne est en plein conflit avec la Turquie ottomane, donc une puissance musulmane en Méditerranée, c'est l'idée que ça concerne aussi bien les non-chrétiens. Donc ça, c'est à l'époque, c'est encore totalement théorique, mais il y a de premières prémices, il y a une généalogie intellectuelle, une généalogie religieuse, et qui au XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle, va déboucher. Bah, les lycéens français entendent encore parler de Voltaire, et notamment de Candide, et Candide se retrouve à Lisbonne au moment du tremblement de terre de Lisbonne, qui est une des plus grandes catastrophes naturelles de l'époque. Et face à cette catastrophe naturelle, la monarchie portugaise ne fait rien. Elle n'aide pas la population, elle ne réagit pas. Ce qui provoque un véritable scandale chez les philosophes de l'époque, dans le monde des Lumières, parce que dit la monarchie et l'Église, c'est la fatalité. C'est la fatalité de Dieu. Et que disent les gens des Lumières, c'est on doit aider les victimes de catastrophes, ça n'a rien à voir avec la fatalité, et l'État donc est défaillant. Et on constate d'ailleurs à l'époque que le Parlement britannique vote, et certaines villes britanniques votent des secours aux victimes de l'attentat à Lisbonne. Elles envoient des bateaux, les premiers bateaux, pour apporter de l'aide. Ensuite, on aura, il y a un phénomène très intéressant qui est au début du 19e siècle, c'est en 1812, je crois, il y a un tremblement de terre à Caracas, au Venezuela, et c'est en pleine guerre d'indépendance des insurgés latino-américains contre l'Espagne. Et le gouvernement américain, en plus, sort d'une guerre contre l'Angleterre, et donc c'est un gouvernement faible, avec très peu de moyens, et que ça n'intéresse absolument pas. Et il y a des citoyens à New York, ou Philadelphie et Boston, qui sont les trois grandes villes de l'époque, qui apprennent ça plusieurs semaines après. Ils n'ont jamais vu un Vénézuélien de leur vie, ils ne le verront jamais, mais ils s'identifient évidemment à eux en partie, notamment parce que c'est une révolution contre le pouvoir colonial, et la révolution américaine est encore assez présente dans les esprits, et donc ils envoient, contre l'avis du gouvernement américain, ils affrètent des convois de bateaux. Et il se passe d'ailleurs ce qui se passera plus tard dans d'autres circonstances, quand ils arrivent sur place, le gouvernement, les loyalistes en quelque sorte espagnols ont repris le contrôle de Caracas, et naturellement, et ils arrêtent les Américains, confisquent le convoi et les jettent en prison, en disant que c'est des espions ou ils sont favorables à nos adversaires. Donc ça, c'est une généalogie. Puis ensuite, il y aura effectivement Solferino. Donc
de l'Orient, puisque là, vous avez évoqué très rapidement, c'est intéressant, les Juifs, les chrétiens, les musulmans, du côté des philosophies orientales, on trouve des choses également.
Dans le bouddhisme, il y a aussi cette notion que, certes, l'État est souverain, mais qu'on doit aider, il y a une obligation pour le croyant de porter secours, de porter assistance, et le bouddhisme est une religion qui n'est pas une religion nationale. Donc de porter secours et assistance très loin, y compris donc à des populations qu'on ne connaît pas, mais qui vont être un peu dans l'ère bouddhiste en quelque sorte. Donc on a toute une série d'exemples de cette nature que j'ai pas le temps de détailler, mais contrairement à ce qui va se passer en Europe ou aux États-Unis, ça ne se traduit pas par des conséquences pratiques concrètes du type constitution du comité de la Croix-Rouge dans les années 1860 en Europe et des Croix-Rouges nationales. Mais ça n'est pas qu'un phénomène purement occidental. À la fin du 19e siècle, au début du 20e, une des Croix-Rouges les plus puissantes du monde, c'est la Croix-Rouge japonaise, à la charnière du 19e siècle. Donc, dans un pays qui, certes, s'est ouvert après la fermeture de trois siècles et qui importe un certain nombre de modèles occidentaux, mais ça s'insère très bien dans la culture japonaise. Et voilà. Donc la croix rouge japonaise est une croix rouge extrêmement puissante.
Et c'est vrai que à l'issue de ce panorama que vous venez de développer, oui, on s'interroge sur la question de savoir si l'humanitaire d'aujourd'hui, dont vous donnez une synthèse dans ce droit et pratique de l'action humanitaire, si l'humanitaire d'aujourd'hui est l'héritier en quelque sorte d'une série de textes et de pensées qui vont chercher très loin dans notre histoire, des millénaires en arrière, dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Pas complètement, parce qu'il l'est en ce sens qu'on ne le comprend que si on le comprend dans sa dimension historique. Ce que vous faites aussi avec votre émission, c'est compliqué à comprendre l'humanitaire. Hein. C'est compliqué de façon générale, non pas pour faire de la complexification ou de la complexité, mais parce que on est dans des sociétés humaines avec des épaisseurs sociales, avec aussi des cultures qui sont différentes, des jeux d'acteurs qui sont assez complexe. Pour donner un simple exemple qui éclairera vos auditeurs, vous allez avoir dans une zone de conflit une partie belligérante qui va empêcher le passage de l'aide pour, par exemple, affamer l'adversaire ou pour montrer sa puissance sur le terrain. Et la même, 6 mois après, qui va au contraire laisser les passages ouverts parce que ça pourra légitimer le groupe politico-militaire en question ou l'État par rapport à la population, parce que l'aide sera apportée aux gens qui en ont nécessité. Donc c'est un domaine complexe. Donc l'histoire et l'ancrage, c'est là, mais quand je disais que je n'étais pas complètement d'accord avec vous, c'est pour la raison suivante, c'est que l'humanitaire est extrêmement évolutif. Et que si vous interrogez aujourd'hui quelqu'un qui, admettons quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est en hibernation, ou qui s'est transformé en ermite, qui a été dans l'humanitaire dans les années 80, dans les années 90, et qui reviendra aujourd'hui et qui regarderait quel est le paysage humanitaire aujourd'hui, presque à la fin de la seconde décennie du XXIe siècle, il ne le reconnaîtrait pas.
Un martien humanitaire qui arriverait des années 80
en tout cas, oui. En partie, en tout cas. Parce que, bien sûr, il y a des choses qui restent, mais le droit international humanitaire notamment, mais même le droit international humanitaire a évolué. Les problématiques sont plus les mêmes. Les acteurs aussi ne sont plus les mêmes. Par exemple, par rapport aux années 80 ou 90, les États sont revenus de façon très forte en termes d'aide humanitaire d'État, et pas seulement les États européens, hein, ou les États des États dits occidentaux. La Turquie a une politique humanitaire très très forte. Le Brésil en a eu une très forte aussi. Moins maintenant, mais elle en a eu une très forte. Les Nations Unies, les agences humanitaires des Nations Unies considèrent qu'elles ont, en quelque sorte, une forme de leadership, il y a une sorte de gouvernance mondiale de l'humanitaire qui s'est mise plus ou moins en place sous l'égide des Nations Unies. Donc les ONG humanitaires continuent d'avoir une forte présence, mais elles ne sont plus les seules sur le terrain. Le Comité international de la Croix-Rouge, les Croix-Rouges nationales et la Fédération des États de Croix-Rouge continuent d'être présents, mais là aussi, donc il y a un jeu en quelque sorte d'acteurs aussi à l'intérieur du monde humanitaire, et les financements ne sont plus dans les mêmes. Si vous voulez, en 10 ans, l'aide humanitaire a décuplé en termes de financement. Elle est passée de 2,5 milliards d'euros à 25 milliards, et même on approche les 30.
Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant on ne parlait pas de chrétiens, ni de musulmans, mais aujourd'hui, ils ont
l'injustice, le tribalisme, la xénophobie. Appel Ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olés. Mais mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal à mal. Mon pays va mal. Pochamana nyamula. On va faire gagner Jamana nyamu.
Philippe Riffman, nous voilà de retour après ce reggae ivoirien. Oui, la musique, c'est important parce que nous sommes beaucoup dans les mots, nous sommes beaucoup dans les théories, nous sommes beaucoup dans les écrits. Et la musique nous fait du bien, elle nous aide à bouger, elle nous aide à faire que les hommes de ce monde se rencontrent. Et les hommes de ce monde de ces mondes humanitaires se rencontrent ou ne se rencontrent pas selon qu'ils sont francophones ou anglophones. Et je voulais vous interroger sur le monde anglophone. Vous dites quelque part dans votre ouvrage que la pensée anglo-saxonne est dominante, voire hégémonique dans le monde de l'humanitaire.
Oui, peut-être que d'ailleurs par rapport à point que vous évoquiez tout à l'heure, le martien humanitaire, peut-être qu'effectivement, il pourrait consulter quelques ouvrages, dont cet ouvrage co-dirigé avec Sandra Surek et Marina Heu, Droit et pratique de l'action humanitaire. Je fais la liaison, pas pour le plaisir de la faire, pas de façon artificielle, mais parce que aussi, nous avons voulu essayer de mieux faire connaître les analyses francophones. Et les pratiques francophones, les réflexions francophones qui sont nombreuses, qui existent, qui ne sont pas du tout marginales à travers d'un certain nombre, effectivement, d'ONG ou d'acteurs Croix-Rouge ou dans des agences des Nations Unies. Mais elles sont insuffisamment valorisées, promues. Et quand je dis francophone, c'est-à-dire c'est pas uniquement français, mais c'est pas uniquement non plus français, suisse et belge, mais c'est aussi canadien, c'est aussi naturellement africain, c'est aussi brésilien d'ailleurs. C'est vrai que la pensée anglo-saxonne, enfin les analyses anglo-saxonnes ont tendance à être dominantes, à être ce qu'on appelle un peu en employant volontairement un terme anglais, le mainstream. Il n'y a pas, si vous voulez, de séparation entre les francophones et les anglophones dans la pratique, dans les pratiques humanitaires directement. D'abord parce que ça pourra peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais on n'est pas là pour être dans le fake news, on est là pour être effectivement dans la réalité. La langue de l'aide, c'est l'anglais. Donc tout le monde travaille en anglais, les partenaires sur le terrain, les associations, les ONG nationales, les organisations locales, tout le monde travaille en anglais. Donc il y a effectivement une dimension linguistique. Mais pour illustrer ça par un exemple concret, le milieu humanitaire aujourd'hui est très attentif aux questions d'éthique, aux questions de déontologie, aux questions de conduite et comment on agit, parce qu'il y a aussi une notion qui est extrêmement importante. On peut vouloir, on ne s'improvise pas humanitaire, On c'est pas parce que on est dans le registre du bien avec un grand B qu'on veut aider, qu'on veut apporter une assistance, que on le fait correctement. Et donc il y a une notion aussi qui est extrêmement importante, qui est la notion de ne pas nuire, c'est-à-dire qu'il faut pas que une démarche d'aide humanitaire finalement soit contre-productive par rapport à l'objectif qui était le sien. Ça peut arriver. Si elle n'est pas suffisamment bien calibrée, pas suffisamment bien ciblée, pas suffisamment pensée, il y a dans certains moments une sorte d'embouteillage de l'aide, par exemple. Donc il faut savoir vers quoi on va. Quand vous avez un tremblement de terre, un séisme ou un raz-de-marée, un tsunami, malheureusement, il y a assez peu de blessés. Au bout de quelques jours, soit les gens ont été sortis des décombres, et généralement d'ailleurs par leurs voisins, par les secours locaux, soit malheureusement ils sont décédés. Donc il y a par exemple peu besoin de monter des hôpitaux, parce qu'il y a peu de blessés.
Quel rapport avec le monde anglo-saxon ?
Non, mais ça c'est aussi bien pour le monde anglo-saxon que pour le monde francophone.
Donc, oui.
Le rapport était le suivant, c'est que donc on a beaucoup développé les codes de conduite.
Oui.
Et il y a des codes de conduite dans le domaine humanitaire. Et les anglo-saxons ont été très en pointe là-dessus. Il y a eu plus de résistance du côté francophone, non pas sur l'idée même de code, mais comment est-ce qu'on respecte le code ? Dont, je dirais, pour simplifier à gros traits, parce que c'est plus compliqué que ça, je dirais qu'une des acteurs anglo-saxons vont appliquer très strictement les termes de référence du code, page après page, volume après volume. Les francophones seront peut-être un peu plus souples, et surtout ce que les francophones disent, c'est que c'est très bien d'avoir ce type de référence, mais il ne faut pas que ça devienne trop contraignant, car il faut qu'on puisse effectivement s'adapter aux circonstances. Si ça devient contraignant, ça devient une série d'obligations à laquelle on ne peut plus déroger. Et comme on est dans une pensée, pour revenir au terme juridique que vous évoquiez tout à l'heure, comme quand je parle anglo-saxon, je ne parle pas que des Américains ou des Britanniques. Hein. C'est pareil pour les Kenyans, c'est pareil pour les Indiens, c'est pareil pour les Australiens, c'est pareil pour les Sud-Africains. Donc il y a aussi des dimensions juridiques. Si vous ne respectez pas les règles, vous êtes en infraction. Et donc il peut y avoir une dimension juridique, même de poursuite, parce que vous n'allez pas. Et donc les
sanctionnés par qui ?
Non, mais ça pourrait être
oui.
le cas.
Oui.
Ça a failli être le cas à une époque, puisqu'on a même eu un projet d'ombudsman, donc de médiateur de l'humanitaire. Sur lesquels, effectivement, les analystes francophones ont montré tout ce que ça pouvait entraîner comme aspect négatif. Il y a aussi, si vous voulez, dans la mesure où les Nations Unies, aujourd'hui, prétendent à exercer une gouvernance mondiale de l'humanitaire, et de fait, elle exerce en partie, là aussi, c'est un univers qui est très intellectuellement dominé par les analyses et les réflexions anglophones. Il y a aussi, par exemple, des règles de sécurité extrêmement strictes au niveau des Nations Unies. La sécurité est aujourd'hui un élément important dans la problématique humanitaire. Mais les règles de sécurité très drastiques peuvent conduire, parce qu'elles sont appliquées mécaniquement, à un retrait des organismes d'aide. Et les analystes francophones, les praticiens francophones disent que ça ne peut pas être automatique. Ça va dépendre de la situation sur le terrain et de ce qui peut être fait ou ne pas fait. On est très attentif aux questions de sécurité, mais les Nations Unies, il y a des échelles de gradation de 1 à 5 de sécurité. Si vous arrivez à une certaine gradation, les agents des Nations Unies partent et elles exigent que les ONG partent aussi. Et les francophones disent, bah non, si on, pour toutes sortes de raisons, c'est pas encore le moment de partir, ou au contraire, il faut rester. Donc voilà un exemple pour illustrer les différenciations.
Voilà, vous en avez cité deux. Vous avez cité la déontologie, l'éthique, les codes de conduite, qui pourraient aller vers une sorte de moralisme anglo-saxon, point d'interrogation. Vous avez cité la sécurité. Vous en voyez d'autres, de grandes différences entre ces deux mondes de l'humanitaire. Et nous avons l'intention, pour ne rien vous cacher, de continuer ces émissions, y compris en langue anglaise, en interviewant et en interrogeant des acteurs anglo-saxons de l'humanitaire.
Bah, si vous voulez, il y a, il y a eu le premier sommet humanitaire mondial en 2016 à Istanbul, dont il est sorti un certain nombre de décisions, notamment une meilleure... un rôle plus important pour les organisations nationales, pour les ONG nationales, pour les communautés, et notamment pour avoir une part plus importante des flux financiers de l'aide. Il y a ce qu'on appelle donc le grand bargain, donc la grande transformation. Sur lequel aussi bien la pensée francophone que la pensée anglophone se rejoignent, mais là aussi il peut y avoir des différenciations dans ensuite dans l'application sur le terrain. Et puis la question de responsabilité, par exemple, de responsabilité des employeurs humanitaires. Les francophones ils sont très attentifs, mais la question de la responsabilité vis-à-vis des personnels, mais aussi la responsabilité vis-à-vis des populations. Donc là aussi il y a une dimension juridique. Cette dimension juridique, comment se traduit-elle? Là on est dans un champ complètement ouvert actuellement là-dessus, et sur lequel les francophones sont légitimes à faire valoir leur point de vue et leurs analyses.
Est-ce que le juriste internationaliste que vous êtes imagine des formules de judiciarisation des conflits de l'humanitaire qui amèneraient la création de juridictions spécifiques traitant des questions humanitaires ?
Jusque-là, je n'irai pas, mais il y a effectivement une tendance quand même à la juridicisation qui peut être justement par rapport à des plaintes sur la qualité de l'aide ou des plaintes de membres du personnel national ou international qui auraient été enlevés, blessés, voire tués. Il y a de toute façon là aussi un phénomène de juridicisation, mais il y a quelque chose de qu'il faut bien prendre aussi en considération, c'est que les conditions des conflits changent. Aujourd'hui, on est dans des conflits essentiellement urbains, pour beaucoup, sauf au Sahel. Le réchauffement climatique, avec ce que ça peut impliquer pour des populations donc, et des possibles réfugiés climatiques. Donc il y a beaucoup de choses à penser sur ces différents plans. Il y a la thématique de la prévention des catastrophes et de la préparation aux catastrophes est une thématique extrêmement importante. La thématique aussi du tout ce qui est violences sexuelles, les violences de genre, à la fois aussi qui n'épargne pas obligatoirement le personnel humanitaire, qui peuvent parfois être aussi faites par le personnel humanitaire, tout ce qui est, si vous voulez, comment on travaille, comment on se positionne dans des conflits extrêmement polarisés. Pour vous donner un exemple d'un pays donc aussi d'Asie, le Sri Lanka, il y a eu une guerre civile au Sri Lanka. Dans certaines zones, une organisation humanitaire internationale ne pouvait pas travailler avec des Tamouls parce qu'elle risquait de les mettre en danger en termes de sécurité par rapport à l'armée ou aux milices gouvernementales, et alors que la population à laquelle elle portait assistance était une population tamoule. Et inversement, dans certaines zones qui étaient contrôlées par des mouvements de guérilla tamoule, faire travailler des Singalais, de l'ethnie dominante, pouvait présenter un risque. Donc vous êtes obligé de tenir compte aussi de ce type de situation. Donc ça, c'est pas parce que vous avez l'appellation humanitaire que ça efface localement toutes les oppositions.
Voilà, Philippe Riffman, il nous reste aussi à parler de cet ouvrage qu'on a évoqué tout à fait en début d'entretien, ce traité de droit et de pratique de l'action humanitaire. Alors, je dois dire qu'il est une véritable bible à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au monde de l'humanitaire, qu'il s'agisse de praticiens, de théoriciens, de membres d'ONG, d'étudiants. C'est véritablement un ouvrage, je dirais, de référence, une sorte de bible. D'ailleurs, le papier est assez fin et je crois qu'il y a 1000 pages. Ça n'est pas rien.
Un tout petit peu moins, 970.
Ouais. 970 pages. Bon, alors, ça veut dire que c'est un ouvrage de référence, avec les abréviations, les sigles, les acronymes, les institutions internationales, l'ensemble, évidemment, des ONG, des bibliographies dans tous les sens, des index, et puis plus de 80 participants. Alors, comment vous dire ? Comment présenter cet ouvrage ? Comment le avec une structuration assez, j'allais dire presque logique, qui va de l'assistance humanitaire, quelles sont les situations, les conflits armés, les situations de crise, quelles sont les normes ? Vous évoquez évidemment, en tant que juriste, l'ensemble des normes qui organisent cette action, et puis l'offre humanitaire, c'est-à-dire les ONG, à commencer par la Croix-Rouge, et ensuite la réception, comment c'est reçu par les populations, en terminant sur les questions d'éthique et de responsabilité que vous venez d'évoquer. Alors, comment avez-vous conçu cet ouvrage ? Comment s'est-il déroulé ? Comment avez-vous fait pour réunir 85 participants ? C'est quand même pas rien. C'est un gros travail qui vous a demandé combien de temps ?
Ça nous a demandé 2 ans et demi.
Oui.
Et nous avons effectivement, avec Sandra Surek avait poursuivi cette idée depuis assez longtemps, Marianne Eude enseigne à Nanterre sur le droit international humanitaire, mais aussi tout ce qui concerne l'aspect du droit pénal international, en ce qui concerne la lutte contre l'impunité. Moi-même, donc, effectivement, j'ai travaillé en sciences politiques, en droit, sur une série de problématiques humanitaires que nous avions évoquées tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de faire, en fait, un ouvrage à entrées multiples, mais tout en ayant une cohérence interne forte, et en ne cédant rien, je veux dire, aux exigences de qualité, ni aux exigences aussi de la recherche, mais en faisant travailler ensemble, ce qu'on appelle des académiques, donc des chercheurs, et des praticiens, des chercheurs indépendants, de les faire travailler ensemble sur des thèmes humanitaires. Et donc nous avons élaboré donc le plan, le schéma, et nous leur avons proposé de travailler avec nous. Et l'autre aspect que je voudrais évoquer pour terminer, c'est que c'est volontairement aussi, ça vise un public diversifié. C'est-à-dire, ça ne vise pas uniquement un public de spécialistes, ça vise un public d'opérateurs de l'aide aussi, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, mais aussi de citoyens qui s'intéressent à la question, de décideurs, les médias. Donc on a volontairement, ce n'est pas le plus simple, on a volontairement visé un public diversifié, multiple, plusieurs publics en réalité, ce qui normalement ne doit pas être fait. Mais on a fait le choix en toute connaissance de cause et en pensant que les différentes entrées sont aussi, peuvent être lues par, y compris par les, par exemple pour les aspects juridiques, par les non-spécialistes. Pour des aspects plus économiques, par les non-économistes. Il y a un chapitre, par exemple, sur l'économie de l'aide humanitaire. Sur les questions de sécurité, par les non-spécialistes de la sécurité. Sur les non-spécialistes des acteurs, par ceux qui pensent qu'il n'y a que la Croix-Rouge ou qu'il n'y a que les ONG, et qui vont découvrir qu'il y a aussi les Nations Unies, qu'il y a les États, qu'il y a les collectivités locales. Donc, c'est volontairement le choix qui a été fait.
Voilà, Philippe Riffman, je crois que nous arrivons au terme de cet entretien qui, lui aussi, pourrait se poursuivre encore longtemps. Je renvoie vraiment chaleureusement et chaudement nos auditeurs à cet ouvrage de référence qui peut être consulté, en effet, par tous les bouts. On ne va pas le lire comme un roman de A jusqu'à Z. Voilà, on a traversé cet univers de l'humanitaire. À bientôt pour un autre Human avec vous, toujours fidèles auditeurs. Salut.
Merci Pierre-Alain Gourion.
Merci à vous.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.